Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Dorothée Rouzé, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui est l'auteur de Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Il y a un auditeur qui dit que quand on déménage de résidence principale à résidence principale...
Oui, de résidence principale à résidence principale, il a raison.
Bon, il a raison.
Il a raison, mais par contre, sur toutes les résidences secondaires, ça n'a pas de sens. D'être à zéro à temps. Et c'est pas l'inflation une fois encore qui pose sujet.
Il y a cet auditeur...
En fait, on a créé un paradis fiscal un petit peu artificiel en disant aux gens asseyez-vous sur votre immobilier, oubliez-les et détenez-les pendant 30 ans.
Il y a un auditeur qui dit qu'il faut pas prendre son temps. Faut arracher le sparadrap d'un coup. Ça fait mal, mais pas longtemps. C'est fait très mal alors.
Bah oui.
La Grèce,
le Portugal.
J'ai regardé quand même ce que les Portugais ont fait, ce que les Grecs ont fait précisément en termes de rigueur, c'est juste.
La baisse.
Non, mais vous imaginez, on a baissé le salaire minimum, on a baissé les pensions de retraite.
Et la baisse des dépenses d'éducation, la baisse des dépenses de santé,
de points de TVA.
La baisse massive des retraites.
Salaire des fonctionnaires, ils avaient un 13e mois, je crois.
Et ça marche, hein.
Ça marche, oui, il y a un choc de compétitivité qui paye au bout de 10-12 ans, quoi. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, avoir une baisse de notre niveau de vie de 20% comme les Grecs?
Ils n'ont pas retrouvé leur niveau de PIB.
Ils ont presque retrouvé leur niveau de PIB, mais 15 ans après, quoi.
Alors, est-ce qu'il faudra monter les impôts, d'après vous?
Bon,
Patrick me regarde désespéré en ce moment, mais...
Mais le problème, c'est une question générale. Je répète toujours sur ce plateau la même chose. La chose qu'il faut, il faut avoir à l'esprit, c'est que si nous avions le taux d'emploi de l'Allemagne, aurait un excédent budgétaire. Donc on se poserait absolument pas de questions.
Je m'étais demandé combien de temps vous alliez me parler.
Il faut absolument, si on augmente les impôts, faut absolument pas augmenter les impôts qui auraient un effet négatif sur le taux d'emploi. Donc effectivement, il faut pas augmenter les cotisations sociales, il faut pas augmenter les impôts de production. Il faut trouver des impôts qui n'ont pas d'effet sur le taux d'emploi. Alors c'est plus difficile. On n'a pas d'expérience, par exemple, une contribution exceptionnelle sur les patrimoines. On ne sait pas ce que ça fait sur le taux d'emploi parce qu'on l'a jamais fait. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, c'est probablement pas très bon pour le taux d'emploi. Ça pousse à délocaliser des créations d'emploi. Enfin, je dirais, il faut avoir ce guide de la politique économique que notre problème, c'est essentiellement le taux d'emploi.
Alors, c'est la page 68 du livre de Bruno Le Maire.
Oui, mais...
On baisse les cotisations. Baisser les cotisations, c'est bon pour le taux d'emploi. 60 milliards, il dit 60 milliards de baisse de cotisations qu'on va mettre un peu sur la TVA, un peu sur la CSG.
Ça s'appelle une dévaluation fiscale. Le problème, c'est que, elle peut être mangée. Si vous baissez les cotisations sociales et que vous augmentez la CSG, normalement la TVA, normalement c'est neutre sur les prix. Ça peut être mangé par le fait que les entreprises répercuteraient pas en baisse de prix la baisse des cotisations sociales. Et donc vous auriez un effet inflationniste de la
mesure. Effet inflationniste et puis effet perte de revenus avec la CSG, mais au moins compétitivité.
C'est une petite dévaluation. Simplement, il faut pas attendre des miracles d'une dévaluation de 2%, quoi. Je veux dire, donc.
Donc TVA sociale, CSG sociale, c'est un fantasme.
Il faudrait faire ça de façon très grosse. D'abord, ça serait très très non coopératif vis-à-vis des autres Européens.
C'est-à-dire
Les Allemands l'ont fait, de toute façon, les autres l'ont fait. Donc, c'est pas coopératif. Vous mangez des parts de marché essentiellement vis-à-vis. Vous gagnez des parts de marché essentiellement vis-à-vis des autres Européens, quoi. Des gens qui sont dans la même monnaie que vous. Et puis, et à nouveau, vous n'oserez jamais faire ça avec, sur une taille suffisante pour qu'un vrai effet macroéconomique.
Bah, 60 milliards, c'est quand même pas...
Bah, c'est une dévaluation de 2%.
2% du PIB, mais sur le coût du travail, c'est plus important que ça. Donc,
l'effet, 3%,
sur le coût du travail peut être Dorothée important, Rousset. Mais effectivement, bon, sur la TVA, ça peut avoir un effet inflationniste. L'idée, c'est bien de gagner en compétitivité, c'est bien de baisser le coût du travail de manière un peu plus, plus large pour les entreprises. Après, il ne faut pas voir ça comme une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
C'est plutôt l'idée d'augmenter le taux d'emploi qui me fait dire que peut-être qu'il y a une piste à explorer dans cette direction-là. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces sujets. Peut-être qu'il faudra en passer par là. Bruno Le Maire, a priori, je pense qu'il est bien placé pour savoir de quoi il parle.
Ouais, mais on sort d'une réforme des retraites.
Oui, bah on sort
avec un allongement de la durée de travail. Donc
mais il y a un moment, il faudra qu'il y ait des perdants. On a un peu de mal à l'assumer quand on commente l'actualité, mais il faudra qu'il y ait des perdants, il faudra qu'il y ait des gens qui payent. Et là, la CSG, vous allez taper les retraités. Est-ce que taper les retraités, c'est bon ou mauvais pour le taux d'emploi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit dans la page 68, Bruno Le Maire. Il dit clairement qu'il y a un moment, il faudra répartir différemment la facture.
Je pense que le sujet d'ensemble, c'est quand même est-ce que le financement de la protection sociale doit peser exclusivement sur les actifs. Ben, c'est pas une idée de taper sur les retraités, c'est de dire faisons-le de manière plus large.
Donc ça a du sens quand même.
Il y a des choses comme les cotisations santé, famille, etc. qui pèsent sur les actifs, qui bénéficient à tout le monde. Donc la question en tout cas se pose. De se dire, faut-il un modèle un peu différent de financement de notre protection sociale
qui pèse moins
sur le coût du travail.
On a commencé d'ailleurs à basculer certaines cotisations vers l'impôt. Bah, ce serait un quasi, enfin pas un achèvement, mais en tout cas une étape supplémentaire. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, Patrick, par l'histoire de TVA sociale.
Depuis 40 ans, je défends la TVA sociale, mais enfin, il faut. Allez, le problème, c'est que c'est très petit par rapport à ce qu'on peut attendre. Enfin, je veux dire, si vous baissez le coût du travail, même de 3%, vous aurez, alors sachant qu'une partie va être mangée par une hausse des marges des entreprises, vous aurez quel effet net sur l'emploi?
Je suis désespéré. Il n'y a pas de solution.
Non, mais faut moins dépenser. Il faut que l'État.
Il faut
que l'État s'y mette enfin. Il faut arrêter la dépense publique. Elle continue d'augmenter. J'ai entendu là hier le président de la commission des finances qui disait que finalement il y avait eu de telles baisses d'impôts que ça explique le déficit. Mais enfin, les impôts ils n'ont jamais été aussi élevés. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts. Il n'y a pas eu des baisses d'impôts. On a le record des prélèvements obligatoires une fois encore. Notre propre record et le record de l'OCDE.
Non, mais il y a eu des baisses d'impôts, même si le niveau de prélèvement obligatoire par rapport au PIB a pu se maintenir, il y a bien eu des baisses d'impôts.
Oui, mais en tout, alors il y a eu des.
Si on a moins de taux d'IS et plus de bénéfices, c'est plutôt bon.
Voilà, c'est ce qu'on veut. Peu importe le taux. Le taux, il a une valeur symbolique. Ce qui compte, c'est ce qui rentre dans les caisses.
Oui, mais je pense que pour les entreprises, le taux compte.
La flat tax, ça a été une bonne mesure. Il y a plus d'argent qui sont rentrés dans les caisses. Pourquoi?
Il y a une chose de bien qui a été
faite. Parce que les gens se sont mis à distribuer du dividende au lieu de capitaliser leurs revenus. Bon. Et donc, évidemment, là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Un taux plus acceptable et une assiette plus large.
Je dis 8 minutes. On n'a pas apporté beaucoup d'éléments de réponse, je trouve, sur tous ces trucs-là, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est très compliqué parce que on a toujours parlé des réformes d'État, on les a jamais faites, et on sait que dès qu'on touche un euro quelque part, il y a un perdant derrière, et on veut pas faire de perdant. On a du mal à l'assumer. Donc, est-ce que vous êtes pour le libre-échange, Guillaume Poitrinal? Parce que là, le Sénat, il a voté.
La réponse, elle est quand même très claire. Hein. 59% de dépenses des administrations publiques en France, la moyenne de la zone euro, elle est à 50. Donc, c'est pas compliqué, il y a 9%. Il y a 9% de PIB à aller chercher.
À nouveau, cet écart est largement dû au fait qu'on a 10 points ou 12 points de taux d'emploi en moins que les autres.
Il nous manque du PIB, on est d'accord, c'est un ratio.
C'est plutôt un manque de PIB et qu'un excès de dépenses publiques par rapport aux autres.
Enfin, retenez en tout cas que nous ne sommes pas la Grèce, que nous ne sommes pas en banqueroute et qu'il ne faut pas réduire les dépenses et pas réduire le déficit.
Donc la question, c'était
quoi? J'ai résumé la pensée de Patrick Artus. La question, c'est si vous étiez favorable au libre-échange. C'est pareil, là, vous prenez toutes les chaînes de télé depuis deux jours, vous entendez que des gens qui vous disent du mal de la concurrence, que des gens qui vous disent du mal du libre-échange, que des gens qui considèrent qu'il faut tout fermer et surtout ne pas aller dans ce type de direction. Donc le Sénat, comme un seul homme, dans une posture purement politique, parce que de toute façon, les LR, ils font exactement... Enfin, tous les votes des LR vont à peu près à l'encontre de ce qu'ils pensent depuis quelque temps, notamment depuis la réforme des retraites. Ils sont assez extraordinaires, les LR, quand même, hein, au Parlement. C'est bien la concurrence et le libre-échange ? Vous avez été à la tête d'une multinationale.
D'accord, mais non, c'est bien, mais pas... Moi, ce que j'entends dans ce truc-là, c'est quoi ? C'est le ras-le-bol de producteurs français, je pourrais vous parler de foresterie, je pourrais vous parler d'autres trucs, qui croulent sous les normes, auxquels on... Et la production normative est un cheval emballé, parce que maintenant, on vous rajoute de l'environnement, vous rajoutez ceci, etc.
Et des concurrents n'ont pas les mêmes normes.
Et puis, à un moment donné, ils arrivent dans l'hypermarché ou Leclerc, et puis ils trouvent des produits, en fait, bah, qui sont ceux qu'ils auraient pu produire, qui peuvent plus produire parce qu'on leur a interdit tel produit, parce qu'on leur a demandé des déclarations de ceci, de cela, de machin truc, des contrôles a priori, a priori.
Oui,
ont arrêté. Et bah, le truc, il a fait 3000 km, il a une empreinte carbone dégueulasse, et il est vendu là.
Ben oui.
Et moi, je comprends ce ras-le-bol, excusez-moi, je comprends ce ras-le-bol, je veux une compétition honnête.
Quand il y a un
accord, il faut vérifier que si on a interdit tel produit chimique parce qu'on estime qu'il est dangereux pour la planète, parce qu'on estime qu'il est trop polluant, parce qu'on estime qu'il est source d'écocide, il n'y a aucune raison d'autoriser sa vente en France. Je suis désolé.
Bon. Mais c'est le cas dans le CETA. Justement. Enfin, c'est aussi ce qui est un peu...
Dorothée Rouzet.
Je suis d'accord avec le fait que, oui, la concurrence, elle est bien faite. Alors, c'est vrai que c'est toujours très difficile, de toute façon, de, entre guillemets, vendre la concurrence dans le débat public, parce que c'est un problème classique de... Ça fait des gagnants et des perdants, le libre-échange. Les gagnants, c'est beaucoup les consommateurs, c'est très diffus, chacun d'entre nous gagne un peu. Et les perdants, c'est très concentré, et forcément, on en parle beaucoup. Donc c'est toujours assez difficile. Maintenant,
les gagnants, c'est très diffus, et les perdants, c'est très concentré.
Il y a aussi des gagnants qui sont très visibles et qui sont dans la filière agroalimentaire sur le CETA. Donc on a effectivement ces questions de... Il faut que la concurrence soit juste, il faut que les normes sanitaires, environnementales s'appliquent à tout le monde, s'appliquent aux importations comme elles s'appliquent en France. Il se trouve que du coup, il y a pas mal de fantasmes sur le CETA. Maintenant, les produits qui sont interdits en France, ils ne peuvent pas être importés du Canada. C'est-à-dire que depuis que le CETA, la partie commerciale, entre en vigueur, non, le bœuf aux hormones ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Le bœuf aux hormones, alors il y en a effectivement, la filière du bœuf au Canada traite son bœuf aux hormones. C'est d'ailleurs bien pour ça que, en fait, les quotas d'importation de bœuf, ils sont même pas remplis. Parce qu'ils sont pas organisés pour répondre aux normes sanitaires européennes. Maintenant, il n'y a pas un bœuf aux hormones qui est rentré en Union européenne. Parce que nos normes sanitaires, elles s'appliquent à tout ce qui est vendu dans l'Union européenne, si ça vient du Canada ou comme si ça vient d'ailleurs. Donc, il y a un peu ce fantasme autour des clauses miroirs qui, de fait, en fait, sont dans nos standards sanitaires et environnementaux.
C'est pas ce que dit la FNSEA, enfin, l'autre jour.
Je vais peut-être
me faire des ennemis, mais.
Sur les phytos, vous pensez que c'est sur les phytos sanitaires?
Et par ailleurs, en fait, quand on voit, je dirais, depuis que cet accord existe, qu'est-ce qui s'est passé pour les échanges entre la France et le Canada en agriculture ou agroalimentaire, nos exportations, elles ont augmenté d'un tiers. L'excédent de la filière vers le Canada, il a triplé. Donc, il est autour de 600 millions. Ceux qui ont particulièrement bénéficié, c'est plutôt le vin, le fromage. Le fromage, avant, ils avaient plus de 200% de droits de douane pour exporter vers le Canada.
Les fromages sont gagnants.
En fait, les importations de bœuf, c'est microscopique. C'est-à-dire, c'est quoi ? Déjà, le quota, c'est moins de 1% de la production de l'Union européenne, le quota d'importer. Donc, on ne va pas être inondé de bœuf canadien. Et de fait, comme ils ne se sont pas vraiment organisés pour répondre à nos normes sanitaires, même ce quota, il n'est pas rempli. Donc, il y a pas mal de fantasmes, effectivement. Je pense qu'il y a aussi une collision entre le Mercosur, qui a moins de bonnes propriétés que le CETA sur l'aspect des normes, de l'exigence environnementale, etc. Donc, c'est un peu le débat sur ces deux accords est entré en collision, mais on ne parle pas du même objet.
Non, mais effectivement, il y a en plus une confusion, effectivement. Avec le Mercosur qui n'a pas été adopté après 20 ans de débat. Et en plus, ce sont des points très précis du texte qui ont été rejetés par le Sénat, alors que, comme vous le rappelez, la partie commerciale du CETA fonctionne depuis 2017. Donc on a quand même du recul. On ajoute quelque chose, Patrick, sur le libre-échange?
Non, je suis pas content.
La Banque de France. Alors, je vous fais réagir à cette note de la Banque de France. C'est dans les Échos, page 3, ce matin. Ça n'a pas été publié, mais ça va l'être. Et c'est la fameuse histoire des pertes de gains de productivité. La Banque de France s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle allait se passer. Est-ce qu'on va continuer à avoir des pertes de gains de productivité qui sont quand même le moteur absolu de l'économie et des salaires. Et donc la Banque de France considère que sur la moitié, un peu plus de la moitié de la productivité qui a été perdue, il y a probablement deux tiers de facteurs qui sont durables. l'apprentissage, le fait qu'on manque de main-d'œuvre, alors on a fini par se tourner vers de la main-d'œuvre qui quelquefois était moins qualifiée. Et puis la Banque de France évoque aussi des effets peut-être permanents à la suite du confinement. Ils ne sont pas cités, j'imagine que c'est le télétravail. Et donc sur cette grosse moitié de perte de productivité, un tiers est temporaire, dit la Banque de France, parce que les difficultés de recrutement ont poussé les entreprises à garder leurs effectifs jusqu'à, pour certaines d'entre elles, se retrouver en sureffectif. Et puis on jouait aussi, comme élément temporaire, la hausse des coûts des matières premières. Et l'étude termine en disant que oui, il y a une partie un peu inexpliquée. Ah. Mais cette partie est un peu inexpliquée, forcément elle aura aussi, par définition, d'après Olivier Garnier, le chef économiste de la Banque de France, elle aura des causes conjoncturelles, donc des causes temporaires. Résultat et bilan, Patrick Artus, car on a souvent parlé de ce sujet, la note nous dit qu'entre 2024 et 2026, on va retrouver des gains de productivité qui dépasseront ce que nous connaissions avant Covid, et qu'en 3 ans, un tiers de la productivité que la France a perdue va être rattrapée. C'est donc une étude qui se veut rassurante.
Bah, écoutez,
j'ai fini mon blabla.
Ce serait une très bonne nouvelle, puisque d'abord, plus de productivité, ça veut dire plus de croissance, ça veut dire moins d'inflation, ça veut dire une Banque Centrale Européenne plus décontractée. Bon, je suis quand même assez inquiet. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, et je trouve que pratiquement toutes les explications de la productivité, de la perte de productivité de la France ou des autres pays européens...
Oui, parce que c'est pas que français.
Démarre d'abord bien avant le Covid.
2019.
Alors en France, ça démarre en 2019. Dans les réseaux de pays de la zone euro, ça démarre en 2017, hein, le recul de la productivité. Et puis, sont dus à des causes structurelles, sont dus à l'insuffisance de recherche-développement, les attitudes vis-à-vis du travail. C'est très contemporain, dans le cas français, par exemple, de la hausse de l'absentéisme. Il y a quand même 2 points d'absentéisme en plus entre 2017 et aujourd'hui.
Considérer que l'absentéisme peut faire partie des causes temporaires, par exemple.
Parce que l'absentéisme
en hausse va devenir une...
L'absentéisme continue à augmenter.
Oui,
donc,
ça c'est vrai. Voilà.
Ça a aussi rapport avec le vieillissement de la population. Et quand on compare les pays de l'OCDE, il y a une corrélation extrêmement forte entre l'âge moyen de la population active et les gains de productivité. Il y a un rapport avec le niveau des dépenses de recherche-développement. Enfin, bah, je pense que la plupart des causes sont structurelles et pas cycliques. Et parmi les causes cycliques, je ne crois pas du tout à la cause qui est mise en avant par la Banque de France, qui est que la poussée du taux d'emploi a fait monter particulièrement le taux d'emploi des peu qualifiés. Ah. Et donc qu'il y a une baisse du degré de qualification moyen de l'emploi. Le taux d'emploi des peu qualifiés n'a pas monté plus que le taux d'emploi des personnes moyennement qualifiées ou très qualifiées. Et donc il n'y a pas de déformation de la structure par qualification de l'emploi.
Bon.
Donc je pense qu'il ne reste pas grand chose des causes cycliques, et je pense qu'il est, malheureusement, on aura un problème de productivité durable, et que la seule... Et alors ensuite, si vous comparez les États-Unis et l'Europe, aux États-Unis, il y a eu aussi des difficultés de recrutement extrêmement sévères. Et aux États-Unis, il n'y a pas eu du tout de ralentissement de la productivité, ni de comportement de précaution des entreprises, hein, qui garderaient des salariés avec la crainte de ne pas pouvoir réembaucher. Pour moi, je pense que c'est beaucoup trop optimiste et que ça sous-estime la part de responsabilité des phénomènes structurels.
Dorothée Rouzet, vous partagez un peu l'enthousiasme de la Banque de France ?
Oui, moi je suis plus d'accord avec la Banque de France. Je pense que ces deux catégories de facteurs. Et en fait, ce qu'on retient de l'analyse de la Banque de France, c'est d'une part, sur les facteurs durables, il y a une partie qui est due à la fois à l'apprentissage et, moi, je dirais, oui, à l'intégration dans le marché du travail de gens qui sont peu productifs et peu qualifiés. Il y a des liens, mais ce n'est pas complètement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes, même quand ils sont relativement qualifiés, quand ils entrent sur le marché du travail, ils ne sont pas encore à leur pic de productivité. Or, le taux de chômage des jeunes a quand même beaucoup baissé. Les apprentis, oui, forcément, ils ne sont pas très productifs. C'est normal, ils sont en train d'apprendre. Mais ça leur permet aussi d'apprendre plus vite et de devenir plus productifs plus tard. Donc, en fait, ces pertes qui sont certes durables, de dire on a quelque part un choc en niveau sur la productivité, parce que des gens qui sont relativement peu productifs, avant ils ne travaillaient pas, maintenant ils travaillent. Certes, ce n'est pas bon pour la productivité, mais enfin, pour le PIB et pour la production totale, c'est plutôt une bonne chose. Il vaut mieux qu'ils travaillent plutôt que de ne pas travailler. Donc, en un sens, il y a cette partie durable dans la mesure où c'est l'explication, c'est pas si inquiétant que ça. Après, il y a la question des pertes temporaires, et là, l'explication principale qu'avance la Banque de France, c'est qu'on appelle la rétention de manœuvre. C'est en gros des secteurs qui ont fait face à des crises assez importantes. Ça a été l'énergie.
Oui, il y a quatre secteurs cités.
EDF, qui bon, l'énergie n'est pas dans l'étude de la Banque de France, mais ça peut en faire partie.
Hôtellerie, restauration.
Il y a hôtellerie, restauration, évidemment, avec le Covid, mais ça s'est pas mal revenu aussi. Il y a tout ce qui est aéronautique, qui a gardé ses ingénieurs, mais avec des difficultés d'approvisionnement importantes, et la construction. Et je dirais là, la question, c'est plus comment va se résoudre cette perte de productivité. D'abord, à quel horizon? C'est vrai que donc la Banque de France dit d'ici à 2026, ça peut aussi être plus lent. Et surtout, il y a des secteurs où ça va probablement se résoudre par plus de production en effectif constant. C'est le cas de l'aéronautique, par exemple. Airbus a des carnets de commandes pleins pour des années, donc il n'y a pas de raison que maintenant ils décident de se séparer des gens alors qu'ils peuvent recommencer à produire à leur cadence habituelle. D'autres où ça peut être plus compliqué, ça peut se résoudre aussi par des destructions d'emplois. Mais là, il faut aussi regarder, par exemple, hôtellerie, restauration, c'est un secteur où de toute façon il y a beaucoup de rotation et il y a des pénuries de recrutement. Donc les personnes qui vont peut-être perdre leur emploi parce qu'un restaurant fait faillite n'auront sans doute pas beaucoup de mal à trouver un emploi dans un autre restaurant. Alors que dans la construction, ça peut être plus compliqué. Peut-être dernier point, ce que compare la Banque de France, c'est la perte de productivité par rapport à la tendance. Et je dirais, quand on compare Europe et États-Unis, mon sujet, moi, c'est pas tellement pourquoi on a perdu un peu plus par rapport à la tendance, c'est pourquoi la tendance de la zone euro de productivité, elle est depuis 20 ans systématiquement beaucoup plus faible que les États-Unis. En gros, on décroche pas particulièrement des États-Unis parce que depuis 2 ans, on a perdu plus. Ça fait 20 ans qu'on a moins de gains de productivité que les États-Unis, parce qu'ils sont plus innovants, parce qu'ils ont pris à plein les gains de productivité du numérique et pas nous. Enfin, donc là, on a des sujets beaucoup plus structurels. Mais les pertes des 3 dernières années, je dirais que l'étude de la Banque de France invite à relativer un peu la gravité, à relativiser la gravité.
Bon, bah écoutez, merci pour vous. Nous reviendrons en 2026.
Oui, on reviendra en 2026.
Très long,
mais
exposé.
Non, mais c'est un sujet hyper important.
C'est une maison, franchement, c'est une très bonne maison ici.
Ah, c'est
les débats et d'un très bon niveau.
C'est une maison sérieuse, monsieur. Est-ce que vous payez dans les temps? Vous payez vos factures dans les temps?
C'est toujours une question d'offre et de la demande. Non, c'est pas la peine de réguler tout. Il y a des fournisseurs.
Non, je dis pourquoi je parle de ça quand même, parce que là, les retards. J'ai mis dans mes sujets les retards de paiement. Là, on en parle en ce moment. Tout le monde cherche la solution depuis des années. Je fais ce métier depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que c'est 13 jours de retard. 12, 13, 14. Peu importe les lois, peu importe les menaces de Naim et Shem, rien n'y fait. C'est le truc insoluble.
Ouais, enfin, moi je me demande si de toute façon encore un objet de régulation, on va obliger mettre le truc, etc. À la fin, ça marche pas. Hein. C'est comme la loi Egalim et tous ces trucs là. On a beau essayer de rentrer dans les rapports entre le fournisseur et le client, à la fin, c'est quand même une question de rapport. Donc, je vous le dis très directement. Moi, ma maison, évidemment, paye dans les temps, mais quand j'ai un fournisseur dont j'ai vraiment envie, qui est absolument indispensable et qui me dit il faut me payer en avance, monsieur Poitrinal, sinon je ne viendrai pas parce que j'ai d'autres clients, excusez-moi, je le paye en avance. C'est pas que je le paye en retard, je le paye en avance.
Mais
pourquoi?
Oui, mais parce que le rapport de force existe.
C'est tout. Et de temps en temps, je négocie les échéanciers de paiement parce que finalement, je préfère. Et puis, j'obtiens un prix moins cher. Donc, tout ça, de facteurs qui sont les uns avec les autres. On adore dans notre pays opposer la grande multinationale et le tout petit patron de PME, start-upper qui lui s'ouvre parce que la grande multinationale est méchante, etc. Mais tout ça, c'est de l'imagerie d'Épinal, les amis. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Dans la vraie vie,
il y a un rapport entre les fournisseurs et les clients. Moi, je suis fournisseur de certains de mes clients. J'ai des clients locataires qui me disent le premier loyer, tu le toucheras après 2 ans de franchise, parce que j'ai pas l'intention de payer un seul loyer pendant 2 ans. Et puis je suis très content de les avoir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de remplir mes immeubles. Donc c'est ça la réelle petite. Mais il faut qu'on parle de lithium.
Oui, on va en parler.
Il reste 3 minutes.
Oui, il reste 3 minutes 10. C'est bien. Vous êtes du super pro maintenant, Guillaume. Oui, il y a un chrono là.
Le lithium.
Il y a un chrono. Non mais j'arrête là sur les délais de paiement.
On sera jamais d'accord.
Une faillite sur 4 en France, c'est les délais de paiement. Oui. Les retards.
Ça comme ça.
Alors,
De toute façon, la faillite, c'est toujours de la trésor. On meurt toujours de la trésor.
Oui,
donc il y a toujours un délai de paiement. Il y a toujours une facture qui aurait pu arriver à l'heure et qui nous aurait sauvé. La réalité, c'est que la faillite, c'est quand il y a une insuffisance d'actifs
dans l'Allier. En Auvergne.
Très intéressant.
On a ouvert le débat hier. Nicolas Bouzou défendait l'idée d'aller chercher du lithium dans l'Allier.
Nicolas Bouzou a raison. Pourquoi? Parce que là, on va avoir le débat très amusant dont je parlais dans mon bouquin pour en finir avec l'apocalypse, entre les écolos décroissantistes qui ne veulent qu'on trouve absolument aucune solution, Et puis, les écolos progressistes qui disent on a besoin du lithium pour aller faire des batteries, on en a en France, et ben donc on va se permettre de mobiliser 4 ou 5 hectares, en effet, pour aller améliorer cette mine qui existe déjà. Et j'ai appris ce matin de la bouche de Patrick Artus.
Et donc, je
pense qu'ici, là, on va toucher le débat très intéressant. La planète est malade. On a besoin de technologies nouvelles pour arrêter le réchauffement climatique. Il y a ceux qui ne veulent rien faire, qui disent on va tomber dans un monde de panique, de décroissance, on va tous retourner dans la caverne, on va tous vivre en autarcie, et ça va être en plus formidable, parce qu'en plus on n'aura plus besoin de travailler, donc il n'y aura plus de problème de productivité, puisque dans ce monde qui est décrit par les décroissantistes, et que je décris dans mon bouquin, c'est un monde formidable, en fait, de bonheur, d'égalité sociale, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus d'inégalité. C'est ça le monde qui nous attend, selon cette théorie des écolos décroissantistes anti-progrès. Et puis, il y a des écolos que moi, j'essaye de défendre, c'est la boîte que j'ai essayé de faire aussi. Allons trouver les solutions, investissons, faisons de la recherche pour vivre dans un monde sans carbone. C'est possible de vivre dans un monde sans carbone. On n'est pas obligé de balancer autant de charbon dans l'atmosphère qu'on le fait aujourd'hui. C'est 40% des émissions. Même les Allemands sont assez riches pour fermer leurs mines de charbon et leur usine à charbon. Il faut qu'ils le fassent. Et donc, il faut qu'on amène la consommation vers une consommation lithium, bas carbone.
Allons chercher du lithium dans le Massif Central. Bon. C'est Imerys qui porte le projet. Le débat ne fait que commencer, mais il est à peu près évident que ça va chauffer autour de ce sujet, comme toujours, quand il y a un sujet qui touche de près ou de loin aux questions d'environnement. L'allié, là, on arrête là.
De toute façon,
on a fini, Patrick Artus.
Il n'y a pas de raison que nous profitions du lithium extrait dans de mauvaises conditions dans de pays émergents et que nous ne fassions pas l'effort d'extraire du lithium en France dans de bonnes conditions, avec une entreprise qui respectera des contraintes environnementales, qui utilisera moins d'eau, etc.
Donc, ils ont un bon argumentaire, Imerys, d'ailleurs. Pour connaître que... On a fini, merci pour ces débats. J'ai adoré là la dette consolidée franco-allemande. Ça c'est la meilleure de la semaine quand même.
La fusion obligée.
Ouais, je suis pas sûr que les Allemands, comme disait Dorothée, seraient super emballés.
Mais bon, on leur demande pas leur avis.
On leur demande pas leur avis.
Merging.
Dorothée Rouzet, merci d'avoir été là. Patrick Artus, Guillaume Poitrinal.